à Gabriel et à toute son équipe de nous avoir conduits dans ses louanges ce matin. Et comme je le mentionnais auparavant, ce sont eux qui ont la responsabilité de nous conduire. Mais en fait, nous sommes tous l'équipe de louanges. L'Église ici rassemblée, c'est l'équipe de louanges qui répand ce bon parfum agréable à notre Seigneur, d'entendre son nom loué. Et nous sommes ici ce matin pour cela. Et j'en profite pour vous saluer et également saluer ceux qui écouteront ce message, car je sais qu'ils sont enregistrés. Alors, mes salutations également à tous ceux qui nous écoutent, car je sais qu'ils sont nombreux qui viennent sur le site Internet et qui viennent prendre part à nos prédications de façon multimédia par l'ère des communications aujourd'hui. Donc, toute la francophonie du Québec et même à travers le monde. Je sais qu'il y a même des gens en Afrique qui nous écoutent et même le peuple haïtien. Donc, toutes mes salutations également à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ma prière ce matin, mon souhait est que Dieu touche vos cœurs par ce message extraordinaire qui est la parole de Dieu, parole vivante, éternelle. Donc, on va commencer avec notre première diapositive à titre de peut-être de retour sur ce qui a déjà été couvert. Nous en sommes à notre troisième bloc, troisième partie de cette étude du livre de Jonas. Et nous sommes en train de regarder ce petit prophète. Hein, on le nomme petit parce que sûrement à cause de la longueur du livre, mais pas à cause de son contenu. Et en fait, parmi ceux qu'on appelle les petits prophètes, c'est probablement, en tout cas pour moi, le personnage qui m'a marqué le plus depuis ma toute jeune enfance, quand j'ai entendu cette histoire extraordinaire. Et peut-être même si on faisait un vox pop, vous savez ces sondages sur le trottoir où on interroge les gens, et je serais certain que si on demandait aux gens de nommer des personnages bibliques, pour ceux qui pourraient en nommer, là, des personnages bibliques à part Jésus et les apôtres, probablement que Jonas arriverait pas loin derrière Noé, Moïse, Abraham, j'en suis convaincu, et même Daniel. Donc, et on peut se demander pourquoi. Eh bien, je crois qu'on va regarder ça ce matin. Il y a des faits marquants dans cette histoire, et on continue ce matin de regarder. Je pense qu'on va avoir des réponses ce matin. Pourquoi ce personnage de la parole de Dieu est si marquant? Alors, nous sommes approximativement en l'an 770 avant Jésus-Christ, sous le règne de Jéroboam I. Donc, évidemment, on parle du royaume du Nord, en Israël, royaume qui avait été séparé. Et ce royaume du Nord, un peuple qui rebelle, qui n'écoute pas les ordonnances de Dieu, qui désobéit. Et environ 40 ans avant l'invasion assyrienne, donc autour de 722, le royaume du Nord sera envahi et anéanti par les Assyriens. Et Jonas, qui habite le nord d'Israël, un Galiléen, Jonas reçoit cette grande mission de la part de Dieu. Évidemment, les gens sont ignorants du fait qu'ils seront envahis. Mais Dieu demande à un Israélite d'aller annoncer, d'aller avertir ce peuple païen, ce peuple guerrier, féroce, impitoyable, abominable, d'aller leur annoncer qu'il devait se repentir afin de ne pas être exterminé sous le jugement de l'Éternel Dieu. Jonas a méprisé ce grand privilège, cette ordonnance, et décide de prendre la fuite, une grande et longue fuite. À Tarsis, les historiens s'entendent plus ou moins à savoir si c'est Tarsis, un des pays du nord de l'Afrique ou celui qu'on retrouve sur les côtes de l'Espagne. Dans les deux cas, il s'agit d'un endroit très loin. Jonas veut fuir. Il veut fuir la face de l'Éternel, loin de lui. Et à partir de Jaffa, comme l'histoire le mentionne, donc on le voit, c'est le point rouge sur la carte, Jaffa, cette ville côtière du nord d'Israël qui est nommée Joppé dans le livre des Actes au chapitre 10 et qui est aujourd'hui une ville qui existe toujours que l'on nomme Jaffa. Donc tous des données historiques vérifiables. Et on voit ici comment la fuite peut être longue. Un voyage sur la Méditerranée de milliers de kilomètres sur une grande mer intérieure. Comment Jonas pouvait-il être ignorant des attributs de Dieu? Un attribut de Dieu, son omniprésence. Comment pouvait-il fuir loin de la face de l'Éternel? Regardons l'exemple de Caïn, fils d'Adam et Ève, qui, après avoir assassiné son frère, a pris la fuite loin de la face de l'Éternel. Tout comme Caïn, Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel, car il y avait la présence de l'Éternel à Jérusalem. Il voulait fuir loin de sa présence manifeste à Jérusalem, au temple, où Dieu se manifestait. Et pour lui, si l'Éternel était là, Jonas voulait être là-bas, loin de sa présence, et ne pas avoir affaire avec cette mission qu'on lui avait ordonnée, loin de son regard. Et vous savez, aussi loin que ça, sur la côte de l'Espagne, par exemple, pour Jonas et pour les gens jusqu'au 14e siècle, les villes côtières de l'Espagne, c'était le bout du monde. On ne pouvait pas aller plus loin. Si on prenait la mer, on tombait. C'était au bout du monde, le plus loin qu'on pouvait aller. Alors, Jonas est en fuite. Et voilà où nous en sommes dans le récit depuis quelques semaines. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles. Tournez dans vos Bibles, dans le livre de Jonas, et nous en sommes toujours au chapitre 1er. Donc, dans Jonas, chapitre 1er, nous allons terminer ce chapitre ce matin. Et c'est tout un revirement de situation dans lequel Jonas va subir cette grande correction, une grande correction de la part de l'Éternel. Et on va voir dans ce récit qui est absolument extraordinaire. Donc, on tourne dans Jonas au chapitre 1, et ça ne sera pas long, j'y arrive. Plus on tourne les pages, moins on croit que le livre existe. Extraordinaire, les pages se perdent facilement. Alors, au chapitre 1, verset 4. Je suis rassuré, il est là. Au verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi! Invoque ton Dieu! Peut-être voudrait-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Ils lui dirent, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait le ciel, la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous une grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Je termine avec le premier verset du chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'est pas évident d'être dans une tempête. Moi, personnellement, je n'ai jamais été à bord d'un bateau sur lequel on paniquait à cause qu'il y avait une tempête. J'ai déjà été à bord d'un navire de guerre, qui est quand même un assez gros bateau. J'ai été 2 jours et demi en mer pour aller observer ce que les gens de l'aviation faisaient sur le pont du navire, parce que les hélicoptères atterrissent et décollent du navire. Et donc, moi qui n'avais aucun désir d'être dans la marine, j'ai dû aller faire comme un stage à bord du navire pour voir comment les gens de l'aviation travaillaient sur ce navire. Et pendant 2 jours et demi, la mer était, ce que les marins disaient, très calme. Il faisait beau, mais il ventait. Et la mer, bon, la marine, ils ont une façon de donner l'état de la mer, hein, de 1 à 5. OK, 1, c'est miroir. C'est les Caraïbes. C'est la croisière. À 5, tu penses mourir. La proue du navire disparaît littéralement dans les vagues. Gros navire, là. C'était peurant. Et moi, j'étais au niveau 2. Il n'y avait pas de vagues, c'était de la houle. Mais de la houle de 4-5 mètres. Alors là, imaginez, là, vous êtes sur une plateforme, là, puis là, ça monte, 4-5 mètres, ça redescend. Ça fait ça, pendant 2 jours. Ben, les marins, eux autres, étaient à l'aise, ça allait bien, mais moi, je traînais mon petit sac. J'avais besoin de ça. Et je ne sais pas si Gaétan est ici ce matin. Gaétan, lui, avec son petit bateau sur le fleuve, là, tu sais, c'est pas en mer, mais sur le fleuve, c'est la mer quand même. Et je peux vous dire que ces petits bateaux-là, les gens sont très courageux. Très courageux parfois de prendre la mer. Et on entend toutes sortes d'histoires de bateaux de pêche hein, qui ont fait naufrage, qui ont disparu. Donc, des tempêtes sur la mer, c'est quelque chose. Des catastrophes. Et parfois, dans des situations comme ça, on cherche des solutions. Même des fois, on pense que ça prend un miracle. Est-ce qu'on croit au miracle? Quand on parle de miracle, c'est intéressant parce que j'ai été voir dans le petit Larousse. Dans le Larousse, en ligne, donne des définitions. Il y en a plusieurs qui donnent des sens plus figuratifs et littéraires. Et c'est intéressant de voir qu'en tête de liste, la définition qu'on donne à miracle est intervention divine. Une intervention divine. Vous savez, dans les catastrophes, comme on entend parler ces jours-ci, comme l'histoire du train à Lac Mégantic, le train en Espagne aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, le TGV, 200 km/h, passe tout droit dans une courbe. Les courbes sont dangereuses, hein, avec les trains. Le train d'enfer, qu'il l'appelle à Lac Mégantic, le train d'enfer. Et c'est pas long dans des circonstances comme ça, que ce soit un train, que ce soit un bateau qui fait naufrage, le Costa Concordia, je pense. On cherche à savoir qu'est-ce qui est arrivé. Parce qu'évidemment, on ne veut pas que ça se reproduise. On cherche aussi un coupable. C'est pas long qu'on cherche des coupables. On cherche. Les compagnies d'assurance cherchent un coupable. Évidemment. Et lorsque on ne trouve pas de coupable, savez-vous comment les compagnies d'assurance appellent ça? Un acte de Dieu. Hein, quand une tornade arrive, évidemment, on sait que la tornade n'a pas été causée par quelqu'un. Donc, c'est un acte de Dieu. Alors, c'est à savoir si vous êtes couvert pour les actes de Dieu ou non. Et on regarde dans notre récit ces marins expérimentés et qui essaient de ramer et qui cherchent par tous les moyens. Évidemment, ils savent quoi faire. Jeter par-dessus bord tout ce qui peut être l'eau, la cargaison. Et évidemment, mais là, ils viennent qu'à penser à acheter un passager. Donc, ces marins sont dans l'espoir d'un miracle. Et dans notre récit ce matin, il y a 4 miracles. Il y a 4 miracles qui sont reliés à la fuite. À la fuite de Jonas. On va en regarder 3. 3 miracles, 3 interventions divines. Et quand on parle d'intervention divine, on parle de surnaturel. Quelque chose qui dépasse les lois de la physique, de notre compréhension, de ce qui se passe autour de nous. Premier miracle, la tempête. Alors Dieu agit devant la fuite. Il décide de prendre les grands moyens et veut faire comprendre à Jonas qu'il ne s'en va pas dans la bonne direction. Et regardez ce qui arrive. On va regarder à bord du navire. Il y a Jonas et tout l'équipage. La fuite de Jonas engendre la tempête. Et c'est intéressant parce que dans la tempête, on ne connaît pas les marins. Est-ce que ce sont des gens totalement incroyants, idolâtres, ou des Israélites idolâtres? On ne sait pas. L'histoire ne le raconte pas, mais ils sont tous à genoux. Il y a un proverbe arabe qui dit que même l'infidèle, l'incroyant, il prie dans la tempête. Et j'ai souvent entendu des témoignages de parents ou de gens qui avaient des proches qui ont été pris d'une maladie ou d'un accident et qui étaient à l'hôpital. Et ces gens-là étaient au chevet de leur enfant, de leur épouse, de leur époux. Et ces gens-là disaient, « Moi, là, moi, je ne croyais pas en Dieu. Mais à ce moment-là, je me suis retrouvé en train d'y parler. Bon Dieu, fais pas ça. Enlève-moi les peaux. » Surprenant, hein? C'est comme un réflexe qu'on a intérieur. C'est automatique. Fais pas ça. Pas à moi. Les marins étaient là, dans cette même situation. Il ne faut pas périr. Ils invoquent leur Dieu. Ils vont même retrouver Jonas qui dort. Réveille-toi. Prie ton Dieu parce qu'on va périr. Et dans un élan de désespoir, ils ont fini par comprendre que c'était lui le problème. On le jette à la mer. Un sacrifice. Un sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? L'effet sur les marins. Ils sont mis à craindre l'Éternel Dieu. Craindre l'Éternel. Le récit nous raconte même qu'ils ont fait une cérémonie, un rituel. Ils ont fait des vœux. Donc, tout un effet. Un premier miracle, une tempête. Une tempête qui a amené un sacrifice. Deuxième miracle, le calme. Le calme, l'apaisement de la mer. Quel effet? Quel effet que cela a eu sur ces marins idolâtres qui ont vu la puissance de l'Éternel? Ce Dieu, parce qu'il connaissait, il savait l'histoire. Jonas leur avait raconté qui il était et qui était son Dieu et pourquoi il le fuyait. Et ça n'a pas été long qu'ils ont compris que l'Éternel Dieu de Jonas était en contrôle des éléments, en contrôle de la mer. Maintenant, j'aimerais regarder un peu plus la facette de Jonas. Dans quelle situation Jonas était à ce moment? Et je vous raconte une petite illustration, sûrement une histoire vraie, c'est arrivé probablement très souvent. C'est un père de famille, de trois enfants, de faibles revenus, qui habite un petit appartement du centre-ville, un petit logement, et qui répond à la porte, et un homme est là, avec un air de tristesse, et il lui explique, il dit, écoutez, je m'excuse de vous déranger, j'ai rien à vous vendre, mais mon cher monsieur, je fais une collecte d'argent pour une famille. Une famille qui, le père de la famille a perdu son emploi, puis les enfants ont faim, l'électricité va probablement être coupée bientôt, c'est l'été, Hydro-Québec peuvent couper l'été, et peut-être même, ils vont perdre leur logement, ils vont être jetés à la rue, ils vont se retrouver sur le trottoir. Alors, voudriez-vous faire une petite contribution? Alors, le père de famille, tu sais, il l'écoute poliment, et puis il lui répond, « Écoutez, c'est bien triste, mais moi aussi, j'ai des responsabilités, et puis je m'organise en conséquence. » OK? Alors, passez une belle journée. c'est pas vraiment mon problème. J'en ai, moi, des problèmes. Mais vous êtes qui au juste, vous? Alors l'homme répond, oh, il dit, je m'excuse, il dit, je ne me suis pas présenté. Il dit, je m'appelle Tom, il dit, je suis votre propriétaire. Je suis convaincu que vous pensez un peu la même chose que moi. Ce locataire vient de se mettre dans une curieuse de position vis-à-vis son proprio. Et puis je me mets à sa place. Et puis je me dis, oui, c'est vrai, Tom, le propriétaire, c'est un gars généreux, altruiste, mais j'espère qu'il va être aussi gracieux envers moi. Si un jour ça m'arrive, et puis qu'il ait vu un peu la façon dont moi je me comporte, un peu ma façon égoïste de voir les choses. C'est un peu comme ça qu'on peut se sentir. Jonas a refusé un privilège et maintenant il fait face à son propriétaire et il souffre. Jonas souffre, il est la cause d'un malheur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jonas est comme ça? Jonas a un dégoût pour les gens de Ninive? Est-ce qu'il y a un sentiment de supériorité? Ou est-ce que c'est peut-être plus son petit lui, son égoïsme, qui fait que moi, je n'ai pas affaire dans cette affaire-là. Ce n'est pas mon problème et je m'en vais. J'aimerais regarder Jonas un peu comme une figure de souffrance et de malheur. Jonas souffrait énormément. Je crois que Jonas était tourmenté. Imaginez dans une tempête. Je pense qu'il était assez déprimé pour aller se cacher dans le fond de la cale puis de vouloir s'endormir sur ses problèmes. Loin de là. Je ne veux pas savoir ce qui se passe autour de moi. Mais là, on vient le réveiller. On le replonge dans l'action. Il est découragé. Est-ce qu'on peut peut-être même penser que Jonas était un suicidaire? À bout. On va en finir avec ça. Je voulais dormir, je voulais que la tempête passe, ça se passe pas. Alors finissons-en, jetez-moi à l'eau. Ça va être fini. Si je ne peux pas aller à l'autre bout du monde, ben je vais aller au fond de la mer. Ça va être fini. Utilisez-moi comme sacrifice. Un paratonnerre, la tempête va arrêter. Jonas, utilisé comme un instrument de rédemption pour les marins. Jean Lépine, il y a quelques semaines, était ici, nous parlait de la souffrance. Et pour résumer, il donnait deux causes à la souffrance. Une étant la rébellion. Et l'autre, la persécution dans la chair, physique, psychologique. Et il donnait deux raisons. Évidemment, il y avait la sanctification, donc à l'état vertical, la sanctification, notre relation avec Dieu, sanctification verticale, et consécration, consolation, nos relations horizontales. Là, je ne suis pas en train de vous bénir, là. Tu sais, c'est dans le sens horizontal, vertical. Deux raisons. Nos souffrances et nos malheurs n'ont pas seulement une incidence sur nous, mais on voit qu'il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein, tu sais, quand une fois, on entend parler là, les missions secrètes, et puis... On va aller détruire une cible ennemie, et puis peut-être pour détruire la cible, on sait qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Peut-être que la bombe va péter un peu trop fort et qu'il n'y a pas juste la cible qui va être détruite, mais peut-être quelques personnes autour. Mais tu sais, c'est pour le bien de la cause. dommages collatéraux. Et on voit que le bateau, les marins, la cargaison, tout était en péril à cause d'un homme, à cause d'un seul homme sur le navire. Et on voit également qu'il y a un autre aspect dans ça, au niveau des raisons, c'est que Dieu y exécute son plan. Dieu avait un plan. Pas juste un plan pour Jonas, mais il avait un plan pour toutes les personnes impliquées dans la fuite. Et on voit ça dans bien d'autres cas. Est-ce qu'on connaît d'autres personnages historiques, bibliques, qui ont pris la fuite et qu'à travers cette fuite-là, Dieu a opéré un plan, pas seulement sur la personne qui fuyait, mais tout sur les gens autour et peut-être même dans un laps de temps très long sur toute une histoire. On pense à Jacob qui a fui son frère Ésaü, parti pour y revenir. On pense à Moïse qui a tué un Égyptien, prend la fuite, s'en va dans le désert, 40 ans, pour y revenir. Les apôtres ont pris la fuite. Le maître avait été capturé. Ça allait mal. Leur sauveur, pris par les autorités, jugé, mis à mort. On sauve, sauf qui peut. Mais dans cette fuite-là, Dieu a opéré quelque chose d'absolument extraordinaire. Dieu est en contrôle. Même quand il y a une fuite, il est en contrôle. Et il se sert de cela pour accomplir des choses extraordinaires. On voit également Jonas, c'est comme une figure du peuple élu de Dieu. Le peuple hébreu, un peuple rebelle, au cou raide, qui a ultimement refusé le plan de Dieu, son plan de rédemption. On n'en veut pas. La leçon que Dieu a voulu donner à son peuple, hein? Il voulait leur montrer, regardez, on va aller faire la repentance. On va aller opérer la repentance des païens. On va étendre la grâce à l'humanité, pas seulement qu'à vous, peuple élu de Dieu, mais à toute l'humanité. La souveraineté de Dieu sur sa création et ses créatures. Et l'attitude de Jonas est comme l'attitude de son peuple. Rébellion face à la volonté divine. Refus d'être les témoins de Dieu pour les nations. Mais Dieu leur sert de sérieuses corrections. Dieu les préserve miraculeusement. Il les préserve de l'exil, la dispersion et le retour. Dieu préserve. Comme Dieu a préservé Jonas, l'histoire continue. Dans la fuite, la tempête, le calme. C'est le calme pour les marins. Mais Jonas, il est à l'eau. Est-ce qu'on va perdre Jonas? Mais non, Jonas avait une mission. On n'est pas pour le perdre. Un troisième miracle. Mais Jonas n'était pas bien homme grenouille, je pense. Mais il n'avait pas son équipement. Ah, il y a tant de choses qui ont été dites à propos de ce fameux grand poisson-là. Il y a de la littérature, mes amis, scientifique, on s'y perd. On pourrait passer notre vie à étudier cette histoire de grand poisson. que ce soit baleine, baleine à fanon, baleine à dents. Vous savez, hein, qu'il y a des baleines qui ont des dents. Il y a des cachalots, les orques, des poissons. Est-ce qu'il y a des poissons assez grands pour avaler quelqu'un? C'est pas une image truquée, là. Je pense que c'est un requin-baleine ou... des grands poissons. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est en contrôle de sa création. Il est en contrôle des éléments, contrôle de la mer, contrôle du vent. Il est en contrôle des animaux aussi. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Dieu en contrôle des animaux? Il y a d'autres exemples. Quand on y pense, Daniel dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions. Bon, mais comparé à un poisson qui va avaler un homme pour le préserver, bien moi j'en ai de meilleur. Le prophète Balaam, connaissez-vous l'histoire du prophète Balaam? Tu sais, les Israélites sont sortis d'Égypte. Et puis là, ils sont en route vers la terre promise. Et puis là, ils marchent dans le désert. Et puis là, il y a des peuplades là, qui les voient arriver. C'est comme des fourmis. Là. Ça s'en vient. C'est comme des fourmis chez nous. Là. Ça s'en vient. Puis ils envahissent mon sous-sol. Et puis les Moabites vont y arriver. Là, les Hébreux, là, c'est des dizaines, des centaines de milliers. Là, puis ils vont tout ravager. Ils vont tout manger. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les maudire. Et puis Balak, qui est le chef des Moabites, il dit, on s'en va voir notre sorcier, notre devin, notre grand prêtre, Balaam, pour qu'il maudisse les Israélites. Il faut qu'il fasse quelque chose. Là. Il faisait confiance à Balaam. Mais l'histoire raconte, si vous ne la connaissez pas, dans le livre des Nombres, chapitre 22, je vous invite à aller lire ce récit-là. Et Balaam, bon, évidemment, Balaam prend, il n'écoute pas l'Éternel, parce que là, l'Éternel a une conversation avec Balaam, et puis il n'écoute pas l'Éternel. Un matin, il se lève, il embarque sur son ânesse, puis il s'en va. Il fuit, un peu comme Jonas. Il est sur son ânesse, puis lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que l'ânesse voit un ange de Dieu qui veut l'arrêter, parce qu'il n'est pas supposé s'en aller. Fait que là, il y a un ange de l'Éternel qui bloque le chemin, mais là, l'âne, il le voit, lui. L'âne voit l'ange de l'Éternel, puis là, il essaie de passer, puis là, Balaam ne sait pas, puis il fouette. Puis il tape. Puis il tape. À un moment donné, l'âne, il écrase. Savez-vous ce qui arrive? L'âne se tourne, puis il dit, « Hey, je t'ai rien fait, moi, pourquoi tu me frappes? » Quoi? L'ânesse qui a parlé à Balaam. Moi, je trouve ça pas mal plus fort qu'un poisson qui engloutit un homme. Et puis, Balaam, il a une conversation, lui, avec son âne. Mais c'est un devin. Voyez-vous, ça, c'est probablement un homme qui est plongé dans l'occultisme. Parce qu'écoutez, là, je sais pas, Amélie, là, tu frappes ton cheval, là. Tu sais, il écoute pas, là, tu frappes, là, puis il dit, là, « Hey! » Rien fait, moi, arrête de me frapper. T'aurais-tu une conversation avec ton cheval? Je ne penserais pas. Mais un homme plongé dans l'occultisme et Dieu dit, regarde bien, moi je suis en contrôle de ce qui se passe. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu n'as pas d'affaire. Tu ne fuiras pas. On avait un deal, tu vas aller au bout de ton pitch. Alors Dieu fait parler un ânesse. Alors, le poisson, le grand poisson, la grande créature marine, il n'y a rien là. Et puis, peut-être aussi qu'il faut considérer dans son ensemble la parole de Dieu. Le simple fait qu'on ait ça entre nos mains aujourd'hui, quand on y pense, des siècles de guerre, de destruction. Et ce livre-là nous est parvenu en 2000, 2013. on a encore entre les mains la parole de Dieu. Et combien d'hommes ont peut-être tenté d'exterminer les lettres de ce livre. Et ça, ça tient du miracle. Donc, si on a de la difficulté avec un grand poisson, vous allez avoir de la difficulté avec le livre. Le livre, c'est miraculeux. La parole de Dieu est miraculeuse. Mais moi, je pense que je le sais. Si c'était un poisson ou une baleine. Vous savez pourquoi, hein? Parce que là, Dieu, là, il y a eu la tempête. Puis Jonas s'est jeté à l'eau. Là, Dieu a dit, c'est assez. Bon. Fait que là, on le sait. Qu'on se pose pas la question. Ceux qui ne l'ont pas pogné, puis qui appognent pendant l'heure du dîner, étouffez-vous pas avec votre nourriture. Mais pourquoi utiliser un poisson? C'est intéressant même. Je m'étais penché sur cela et je regardais des comparaisons dans l'histoire du peuple de Dieu. Et vous savez, en Égypte, hein, lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, eh bien, il y a eu les dix plaies d'Égypte qui ont été envoyées par l'Éternel. Et Moïse qui avertit 10 fois, à chaque fois, il envoie une plaie sur l'Égypte. Et vous savez que chacune des plaies s'adresse à un des dieux d'Égypte, qui étaient souvent des animaux, figurés en animal, et des dieux idolâtres. Alors, Dieu utilise sa puissance pour démontrer au monde qu'il a la supériorité sur leur faux dieu, qu'ils ne peuvent rien faire. Les gens de Ninive vénéraient Nanshi et Dagon, deux dieux, hommes, poissons. C'est un peu bizarre, là, mais c'est des poissons. Et on sait que Jonas raconte son histoire. Hein? Il est sur le bateau et puis il raconte aux gens du bateau là, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Je peux m'imaginer Jonas qui marchera parmi les gens de Ninive et puis qui leur raconte qu'il a été englouti par un grand poisson. Il raconte ça à un peuple qui vénère un dieu poisson. Ça peut avoir un impact, ça. De dire, oh, il y a quelque chose là. Donc, Dieu utilise. Il utilise, mes amis, le bon instrument au bon moment. Dieu a fait avaler son peuple. Son peuple désobéissant, il les a fait avaler par un peuple païen, idolâtre, Babylone. Le peuple est englouti et une partie du peuple est préservée dans les entrailles de Babylone pendant 70 ans. Et puis il les retourne. Il fait son travail. Et là, je ne veux pas aller plus loin pour cela. Mais on voit dans l'histoire de la fuite, de la tempête et également de la préservation que Dieu ne change pas sa façon de travailler. Il y a une détresse. Il entend les cris. Il a un plan. Et il intervient. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans les psaumes. C'est intéressant de voir dans les psaumes, psaume 107. Dans le psaume 107, on retrouve principalement trois interventions, trois récits dans lesquels on voit justement le même pattern, si on peut dire, cette même méthode où les gens crient d'angoisse, sont dans la tempête, Et psaume 107 au verset 23. Verset 23 jusqu'à 30. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. » Ça, c'est de la houle, ça. Il montait vers les cieux, il descendait vers l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Les ondes se turent. Ils se réjouirent et de ce qu'ils s'étaient apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. C'était écrit dans les psaumes. On peut presque y lire l'histoire de la fuite de Jonas. Ces marins, en perte de contrôle total, et qui criaient leur Dieu, et qu'ils invoquèrent l'Éternel. L'humanité en péril. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour son humanité, sa création. Et regardons maintenant, pour terminer, Jonas, une figure de ce plan de rédemption. Jonas, le Galiléen, Jésus de Nazareth. Nul n'est prophète dans son pays. Jonas, endormi dans la barque, dans la tempête. Jésus, endormi dans la barque avec ses disciples. Mais Jésus était en paix. Jésus y était pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que Jésus fuyait aussi les foules un peu abusives et qu'il voulait se retrouver parfois seul avec ses disciples, mais Jésus voulait aller de l'autre bord parce que lui avait d'autres choses à accomplir aussi. Il n'arrêtait pas. Jésus n'était pas en fuite. Jésus était blâmé par les religieux, pas par des marins, mais blâmé par des religieux de mettre le chaos dans leur petite zone de confort. Ça brassait, ça houlait. Et on l'a utilisé comme sacrifice pour assouvir la colère d'une foule attisée par des mensonges. Un sacrifice, non pas de le jeter dans la mer, mais mis sur la croix. Résultat final, l'accomplissement d'un plan de rédemption pour l'humanité. Dans trois évangiles, Jésus cite Jonas. À trois reprises, il est défié par les pharisiens qui veulent voir un miracle, qui veulent voir un signe du ciel. Et Jésus les renvoie dans le livre de Jonas. Je ne vous en montrerai pas. Le dernier qui a été fait est à Jonas. Il les retourne. Jésus leur enseigne ce qui va arriver en leur disant, connaissez bien l'histoire de Jonas. Si vous connaissez ce qui est arrivé à Jonas, vous allez comprendre ce qui va arriver. Des miracles. Mais Jésus en faisait un tout. Parce que Jésus allait accomplir le grand miracle. Donc, évidemment, on a parlé de trois miracles, la tempête, le calme, la préservation. Et pour le quatrième, ce sera pour un autre message, je crois, la semaine prochaine. Mais Jésus parlait d'un miracle que lui-même allait faire partie. Vous savez, les grands les grands prestidigitateurs, les magiciens de ce monde, ils manipulent, hein? On manipule, donne l'impression qu'on manipule les lois de la physique et tout ça. Et puis, il y a comme Houdini. Houdini a dit, moi, là, regardez bien, je vais faire partie du numéro. Je vais me mettre, moi, en danger. Et vous allez voir, je vais me délivrer. Alors, un peu comme ces personnes qui se mettent dans le numéro, Jésus a dit, moi, je vais faire partie du numéro. Vous allez voir. Et comprenez ce qui est arrivé à Jonas. Comprenez le miracle qui s'opère. Vous savez, en quelque sorte, on est tous un peu dans une galère. On est tous dans une galère et on est à la recherche du calme. Où est-ce qu'on cherche le calme? Où est-ce qu'on va trouver la solution à nos problèmes? On cherche toujours des solutions. Et c'est souvent des témoignages que j'entends. J'ai animé un groupe de thérapie pour des parents endeuillés qui sont en deuil d'un enfant. Et ils nous demandaient souvent, lorsqu'ils voyaient des témoignages de d'autres parents, qui disaient, bien, vous semblez être capable de vous en sortir. Écoute, moi, je suis dans une tempête terrible et puis je vais sombrer. Je vais sombrer, je ne vois pas le bout à ça. Et ils nous demandent, quand est-ce qu'on commence à mieux aller? Et puis souvent, ce qu'on leur répondait, c'est, bien, c'est aujourd'hui. Parce que, vous vous êtes déplacé pour venir ici, à la rencontre. C'est là que ça commence. Le simple fait de dire « j'ai besoin d'aide » et « je me déplace pour aller obtenir l'aide », ça commence. C'est un début, c'est enclenché. La parole de Dieu dit « demandez et l'on vous donnera ». Cherchez et vous trouverez. Si vous cherchez et vous êtes ici ce matin, arrêtez de chercher. Et si vous avez écouté, vous avez trouvé. Si vous êtes ici ce matin et vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, ne fuyez plus la volonté du Seigneur pour votre vie. Comme je le mentionnais, on est tous un peu dans une galère. Jetez votre rébellion, votre désobéissance à la mer au plus vite. Sautez. Laissez-vous transporter. Trouvez le calme au pied de la croix. Si vous êtes ici ce matin et vous ne saviez pas qu'il fallait naître de nouveau, pour devenir un enfant de Dieu. Alors, vous êtes en fuite également. Vous êtes en fuite pour Tarsis, au bout du monde. Ne cherchez plus à faire votre propre mission. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Luc 17, 33. Faites comme Jonas. Demandez à Dieu aujourd'hui de vous jeter à l'eau. Jetez-vous à l'eau. On parlait de baptême tantôt. Hein? Il y en a qui ont pris la décision, il y en a qui ont pris une position par rapport à Jésus-Christ. Et ils seront baptisés pour témoigner publiquement de leur foi. Prenez cette décision aujourd'hui. Faites le 28 juillet 2013, la journée que vous allez naître de nouveau, aujourd'hui. Acceptez. Acceptez que vous êtes dans la même situation que Jonas. Vous êtes en fuite. Il n'y a pas de solution de vous-même. Vous ne pourrez pas y arriver. Donnez à Dieu votre fardeau. Donnez-lui. Attendez pas. Demandez le pardon. Demandez le pardon à Dieu. Soyez réconciliés avec lui. Demandez-lui le don de la foi. Celui qui demande recevra. Il le promet, recevez le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui. C'est la grande visite. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix ouvre la porte et j'entrerai. Que celui qui entend ma voix ouvre la porte et j'entrerai. Si vous êtes ici et le Seigneur cogne à votre porte, ouvrez la porte. N'attendez pas. Comme on dit, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, ce qui nous pend au bout du nez. Demandez aux gens de Lac-Mégantic s'ils se doutaient de ce fameux train d'enfer qui est arrivé. Il y a un chant que j'aimerais qu'on chante avant de quitter. Et Gabriel va nous guider dans ce chant. Je vais faire une courte prière. Et puis, Gabriel va enchaîner avec le chant. Quand la tempête se déchaîne. Alors, je vais prier. Et puis, on va chanter. Oui, Seigneur Dieu, on a vu ce matin à quel point tu ne laisseras pas ton serviteur fuir, que tu regardes ta créature avec amour et que tu en prends soin. Ce matin, s'il y en a ici qui te cherchent, Seigneur, que tu cognes à leur porte, cognes à leur porte de leur cœur et qu'ils saisissent qui tu es, celui qui est en contrôle de la création de ses créatures et qui les aime, tellement aimé, qu'il a donné sa vie sur la croix pour chacun. Oui, Seigneur, ma prière, c'est que ces personnes prennent position pour toi ce matin, se jettent à l'eau et puissent être préservées miraculeusement. Le miracle de cette nouvelle naissance que toi seul peux faire, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous du bien comme peuple également. Préserve-nous du mal. Préserve-nous de la fuite. Que nous demeurions dans ta volonté. Dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Si la mer se déchaîne, si le soir souffle fort, tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus. Tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai.
Amen. Merci.